Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Jean Georges Cabanis, médecin, physiologiste, précurseur de la neurophysiologie, a traversé le siècle des Lumières et la Révolution française de Mirabeau à Bonaparte. Ce médecin philosophe a laissé une œuvre scientifique et littéraire consacrée à l'histoire de la médecine, à l'organisation de l'enseignement médical et des hôpitaux et à la philosophie de la médecine. Membre de l'Institut, à la fois de l'Académie française mais aussi auparavant de qui ne s'appelait pas encore tout à fait l'Académie des sciences morales et politiques. En tout cas, il a été membre de l'Académie française au fauteuil 40, de 1803 à 1808, année de son décès, à Serincourt, hameau de Rueil, en région parisienne. Après sa biographie de Félix Vic d'Azyr, médecin de Marie-Antoinette, qualifié de « buffon de la médecine », qui s'imposa tel un météore en son temps, nous a-t-il appris, le professeur Yves Pouliquen, lui-même académicien et médecin, offre à ses lecteurs une nouvelle biographie, cette fois consacrée à Pierre-Jean-Georges Cabanis, lui aussi médecin et membre de l'Institut. Il s'agit de Cabanis, un idéologue de Mirabeau à Bonaparte, publié en janvier 2013 chez Odile Jacob. Merci Yves Pouliquen d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, ce n'est pas votre premier ouvrage consacré à ces grandes figures savantes du XVIIIe siècle. Vous avez écrit Félix Vic d'Azyr, Les Lumières et la Révolution. Nous vous avions reçu à cette occasion et nos internautes peuvent toujours télécharger cette émission et vous retrouver en tapant dans le moteur de recherche sur la page d'accueil de Canal Académie votre nom. Vous êtes aussi l'auteur de Un oculiste au siècle des Lumières, Jacques Daviel, et de Madame Sévigné, la médecine du grand siècle. Alors Yves Pouliquen, j'ai envie de vous demander pourquoi retracez-vous l'histoire de ces savants du XVIIIe siècle à travers vos livres? Qu'ont-ils de si fascinant pour vous qui êtes écrivain et médecin du XXIe siècle?
Oui, c'est une bonne question. Je peux m'interroger moi-même. Non, je dirais que j'ai abordé le siècle des Lumières avec Jacques Daviel. Jacques Daviel est probablement l'ophtalmologiste mondialement le plus connu. C'est un Français, un Normand, qui a inventé en quelque sorte l'opération de la cataracte dans ses formulations modernes, nous pouvons le dire, dont on suit encore, si vous voulez, la méthode, en tout cas les indications.
Je rappelle que vous êtes vous-même ophtalmologiste.
Oui, je suis ophtalmologiste. Donc ça a été mon premier contact et j'avoue que j'en garde un bon souvenir. Alors ensuite, pour Vic d'Azyr et Cabanis, c'est un autre abord. C'est élu à l'Académie française, c'est quelqu'un qui c'est quelque chose qui surprend, vous le comprenez, surtout qu'on ne s'y est jamais attendu. Et à ce moment-là, on s'interroge pourquoi on est médecin là et pourquoi dans cette noble assemblée. Alors j'ai répertorié tous les médecins qui m'avaient précédé et je dois dire que la plupart étaient médecins et non chirurgiens. Et parmi les médecins qui m'ont précédé, il y avait Vic d'Azyr et Cabanis. Mais je suis chirurgien et je fais remarquer que je ne suis seulement que le deuxième chirurgien élu à l'Académie française, le premier étant Henri Mondor. Alors, m'intéressant à ces médecins, j'ai voulu savoir pourquoi ils étaient entrés à l'Académie. Et en réalité, je dirais qu'ils ont une démarche probablement similaire à celle qu'on a au travers des siècles, quand on est un universitaire qui s'intéresse aux choses, qui dépasse un peu le cadre de ses activités spécifiques et qui s'intéresse à la littérature, à l'histoire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Quant à Madame de Sévigné, j'adore la marquise et j'ai consacré un gros livre à ses rapports avec la médecine.
Alors, revenons à Cabanis pour le temps de cette émission. Le jeune Cabanis a au départ du mal à trouver sa vocation. Il hésite entre poésie et médecine. C'est quand même
Oui,
c'est pas banal.
Non, c'est pas banal, c'est le grand écart.
Voilà.
Le grand écart. Oui, c'est vrai que c'était un élève très indocile, un fils très indocile, et on peut s'étonner même qu'à 14 ans, son père l'ait envoyé à Paris. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exemples tout de même à cette époque et qu'il n'était pas rare qu'on livre son fils finalement à une éducation. Et alors là, on a pensé, son père a pensé que chez Rouchet, qui était poète, il pourrait avoir sa formation. Mais il va rencontrer un grand médecin, Dubreuil, qui va lui démontrer que la médecine est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et il va avoir cette vocation et il va préparer ses études de médecine.
Pour cela, il va monter à Paris.
Oui, bien sûr.
Et c'est là qu'il fait une rencontre extraordinaire et qu'il va enfin aussi trouver un peu le chemin de... Enfin, sa voix d'abord, et oui. Puis un apaisement sentimental.
Oui, oui, oui. Je pense que c'était un. Il était très perturbé. Il se dit lui-même mélancolique depuis l'enfance et qu'il le sera toute sa vie. Ses premiers essais d'être le secrétaire d'un évêque polonais, de partir en Pologne, le déçoit, le forme puisqu'il apprend l'allemand à cette époque-là. Et en plus, c'est un érudit. Mais tous les enfants de l'époque qui voulaient réussir étaient des érudits en matière classique, si vous voulez, ils lisent beaucoup. Et pendant toute cette période qui va jusqu'à 18 ans, 19 ans, avant qu'il aborde ses études de médecine, il a une très grande culture, très diverse d'ailleurs, très éclectique, de philosophie, des grands historiens classiques, latins. Il parle un peu grec, puisqu'il fera sa thèse en grec.
Oui. Hein,
et avant d'aborder la médecine, et il va faire cette rencontre exceptionnel de Madame Helvétius. Alors, c'est exceptionnel à beaucoup d'endroits. Imaginez, à notre siècle, arriver à 18 ans et être accueilli par une personne tout à fait considérable à l'époque qui accueille tous les jours jusqu'à 50 personnes du tout Paris. Et le tout Paris de l'époque, c'était le toute Europe. Et il y côtoie, il a la chance d'y côtoyer Diderot, de voir Grimm, de voir Holbach, de voir Vic d'Azyr, de rencontrer tous les grands médecins de l'époque, de rencontrer Talleyrand. Imaginez qu'à 20 ans, cet homme est au contact de Benjamin Franklin, qui est séduit par lui, car je pense que sa réussite aussi, c'est qu'il a séduit au premier instant une dame, qui est Madame Helvétius, qui a 30 ans de plus que lui, est veuve, et qui, je crois, a pour lui un amour maternel. Je sais qu'on a supposé qu'ils avaient un lien plus charnel. Moi, je crois que le fait que Cabanis ait l'âge du fils qu'elle avait eu et qui est mort, je crois, dans sa deuxième année, je pense que cela, allié à la séduction qu'avait Cabanis, a fait qu'ils ont eu entre eux un rapport fils-mère tout à fait exceptionnel. C'est comme ça que je le conçois. Alors l'abbé Morlaix, qui habitait aussi chez Madame Helvétius, disent qu'ils aimaient quand même beaucoup se retirer dans les appartements, qu'ils aimaient beaucoup partir à la campagne ensemble, et que manifestement, il y avait entre eux un lien qui n'existait entre Madame Helvétius et les autres, nullement. Donc là, il y a eu un rapport d'affection total, complet, et aussi une inquiétude de Madame Helvétius devant cette carrière que va prendre notre jeune Cabanis et qui va se révéler très rapidement une carrière exceptionnelle.
Alors, il est protégé par Turgot ?
Bien sûr, c'est oui, parce que Turgot était l'ami de son père. Voilà. Oui.
Et il est, moi je résume, hein, il est le médecin de Mirabeau.
Oui.
Comment s'engage-t-il à la fois dans cette vie privilégiée, à la fois en médecin et en tant que...
Je crois qu'il saisit d'abord, dans les premières années, avant 89, il est allé à 78, il est rentré, je crois, chez Madame Helvétius, et jusqu'à 89, il étudie et il écrit sur la médecine, car c'est ça qu'il passionne, et il fait le point sur les études médicales, et il se révolte de ce que la médecine soit l'objet du théâtre, d'un mépris, en quelque sorte d'un monde intellectuel. Car ici, la médecine jusqu'à présent est basée sur l'empirisme, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, et on va faire de la médecine une vraie science. Et non seulement on va faire de la science de la médecine, mais on va faire entrer la philosophie dans la médecine, mais la médecine dans la philosophie. Donc là, il a une période de travail et d'éducation vraiment considérable. Il
et étudie... c'est très très jeune qu'il a cette triple démarche.
Il a 23-24 ans.
À l'aube de sa jeunesse.
À l'aube de sa jeunesse, exactement. Il est déjà convaincu qu'il a quelque chose à dire. Et il est d'une grande intelligence. Les rapports qu'il a avec les Condillac, avec Turgot aussi d'abord, qu'il a avec Benjamin Franklin, sont des rapports tout à fait exceptionnels. Et il en tire là, je pense, son éducation. Son éducation qui reste à ce moment-là très professionnelle et très, très orientée vers la médecine. Mais 89 va arriver. Et 89, il va assister dans les salons de Madame Helvétius à toute cette révolution qui apparaît après la réunion des États généraux. Ses amis Volney, Daunou, Champfort sont tous députés, ils sont à l'Assemblée nationale, et lui est un peu en retrait. Et à l'occasion des événements qui ont suivi la prise de la Bastille, il prend prétexte d'aller prévenir ses amis à Versailles pour leur dire qu'il faut craindre que le roi réagisse violemment par une intervention armée. En fait, il arrive là-bas, le roi est plutôt apaisant, et il rencontre Mirabeau.
Rencontre déterminante.
Alors, Mirabeau à l'époque, c'est le tribun, s'il est dans sa pleine période, et il a, comme on dit, son atelier. Et dans son atelier, il emploie un certain nombre de gens. Il emploie Champfort pour critiquer l'Académie française, il emploie Daunou pour autre chose, il emploie Volney pour autre chose, et Cabanis pour ses rapports avec la médecine et l'éducation. Et ils vont faire ensemble un traité d'éducation qui est assez, assez édifiant d'ailleurs, qui est très moderne, qui est par contre tout de même un petit peu dur avec les femmes, puisqu'ils veulent bien les éduquer un peu, mais pas trop quand même. Ils en sont toujours à réduire les femmes aux charges de faire les enfants et de les bien élever, et bien loin de Condorcet, qui lui, quand il publiera quelques années plus tard,
dont il sera très proche aussi.
Oui, dont il est très proche, bien sûr, de Condorcet. Et quand Condorcet publiera son thème sur l'éducation, lui libérera les femmes et voudra que les femmes aient les mêmes droits, y compris les droits de vote. C'était extraordinaire. Donc
en quoi le trouvez-vous moderne, justement, dans ce traité d'éducation ?
Eh bien, parce que ils pensent que l'éducation doit être généralisée, et qu'ils déplorent que, par exemple, la grande partie de la population de la campagne ne sache pas lire. Et il dit avec Mirabeau, quelqu'un qui ne sait pas lire est quelqu'un qui est dominé, est exploité. Alors, comment les éduquer ? Alors, bien sûr, il y a les enseignements religieux, mais il faut créer un enseignement laïque. Il faut créer des instituteurs. Les instituteurs, actuellement, ne sont pas très bien formés. Il faut donc faire des écoles d'instituteurs. Il faut rémunérer les instituteurs, car si on ne les rémunère pas, ils ne font pas leur boulot. Et donc, là, il y a la mise en place d'un système très important qui concerne l'éducation. Mais à côté de ça, il pense au problème de la prison, il pense au problème de la pauvreté, il pense au problème des hôpitaux.
Il est l'héritier aussi de toutes les encyclopédistes dans lesquels il s'inscrit,
et,
en fait.
Et il essaie de mettre en pratique, et il le fera plus tard.
Oui.
Car lorsqu'il sera sénateur au 500, à ce moment-là, il interviendra très souvent sur des thèmes qu'il aura préparés pendant sa jeunesse.
Pendant cette période-là. Ouais, ouais. Donc c'est une période extrêmement formatrice pour lui. Alors comment s'engage-t-il dans la Révolution ?
Alors il s'engage dans la Révolution d'abord auprès de Mirabeau, qui était tout de même un acteur considérable jusqu'à la mort de celui-ci. Et on sait qu'il fut le médecin de Mirabeau. Mais il s'engage parce qu'il est séduit par les idées de la Révolution. Il est séduit, et en plus, le foyer du salon de Madame Helvétius est totalement révolutionnaires, mais je dirais, à part Chamfort, la plupart sont des révolutionnaires qui n'envisagent pas autre chose qu'une monarchie constitutionnelle. Il y aura bien sûr des Marie Chénier qui voteront la mort du roi, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des gens, des monarchistes constitutionnels. Mais là, il y adhère totalement. Et même dans un certain sens, il justifie quelquefois les actes de violence de la Révolution, en pensant qu'ils sont nécessaires. Et là, il se fâchera avec Rouché, le poète qui fut son maître. Il se fâchera avec Morellet, qui était son grand ami, et qu'il ne retrouvera plus tard qu'à l'Académie française. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Mais ils se sont séparés là sur, tout de même, les moyens d'accomplir le mouvement, la Révolution.
Il y a eu des divisions à ce moment-là, mais il est encore... il va s'engager après... pleinement, même après la période de la Terreur, j'avance un petit peu, en reconstituant, après la période noire de 1793, à nouveau un deuxième cercle à Auteuil, voilà. Avec Madame Helvétius, avec les rescapés de cette Terreur.
Le premier cercle, de 90 à 92, il a fait partie de la municipalité d'Auteuil. Et il a été donc un adjoint au maire d'Auteuil.
Comment était donc le citoyen Cabanis ?
Le citoyen, je crois que c'était un homme très bon, très ouvert, et en plus un médecin, je ne dirais pas que c'était un grand médecin, mais qui était très dévoué. Et je pense que la population d'Auteuil lui a été reconnaissant et pendant la Terreur, l'a protégé. Mais il a été aussi un petit malin. Il a appartenu pendant un temps... un tribunal révolutionnaire, mais il s'est fait porter malade. Je crois qu'il a survécu, comme Sieyès l'avait dit, il a survécu et il a perdu beaucoup d'amis parce que un certain nombre de gens sont morts, guillotinés, et c'est peu à peu que s'est reconstitué le second cercle d'Auteuil, où là, Madame Helvétius est un peu plus vieille, et le maître de maison, c'est Cabanis.
C'est lui.
Oui, c'est lui.
Il a
c'est
été
lui.
Bien formé.
Et oui. Et là,
c'est un homme de terrain.
Ah oui, c'est un
habile
homme de terrain.
Dans la complexité du voilà. Contexte historique.
Et alors là, le Directoire. Directoire, formidable période, non pas politique, parce que c'est très. Il n'y a plus de pouvoir, tout a tiraillé à Dia, il y a les mouvements royalistes qui reviennent. Manifestement, le Directoire et Barras ne font pas ce qu'il faut, la Constitution est insuffisante. Et là, ceux qu'on appelle les idéologues se réunissent et vont rêver d'une république formidable. Et ils vont se retrouver tous membres de l'Institut, par la grâce du directoire qui va recréer l'Institut, qui va recréer les grandes écoles, qui va recréer les écoles de médecine, qui va recréer Polytechnique, qui va recréer tout cet ensemble où les idéologues prennent toutes les places.
Alors en fait, il a été qualifié d'idéologue, mais à cette époque, ça n'a pas le sens que nous lui portons. Oui. Vous allez nous expliquer qui sont ces idéologues. Mais effectivement, la Révolution avait supprimé les académies royales de sciences, d'art et des inscriptions des belles-lettres et de l'Académie française pour les reconstituer après.
Oui.
Mais en 1803, en réorganisant cet Institut de France, en 1795, les révolutionnaires créent la classe des sciences morales et politiques. Et en effet, quelques années après, en 1803, cette classe des sciences morales et politiques est tout simplement supprimée parce qu'on y trouve les idéologues trop
alors
actifs.
Alors là, ça demande une explication. C'est que,
mais d'abord,
Les idéologues se retrouvent à l'Institut, c'est-à-dire dans le Louvre en face, et débattent de beaucoup de choses. Et un petit groupe autour de Cabanis, et Donoux, Volney, tous ceux qui sont autour de lui depuis qu'il fréquente Madame Helvétius, se disent que ça ne peut pas durer. Sieyès est là aussi, et Sieyès déteste le directoire. Et ils se disent, comment peut-on changer ? Il faut un homme fort. Et c'est là que, par des discours très spécieux, on dit qu'on peut quand même avoir un dictateur sans perdre la République, et on rêve de quelqu'un qui mette de l'ordre, Et finalement, ils mettent en place Bonaparte. Bonaparte, très séduisant, riche de sa gloire militaire, qui est très intelligent, qui les éblouit, qui prononce à l'Institut aux sciences morales et politiques, où il remplace, il remplace quelqu'un qui a été écarté parce qu'il avait comploté de façon royaliste, du moins de l'accuser de ça, et Bonaparte étant en place, affirmant qu'il respectera la République sous toutes ses formes, est porté vers le 18 Brumaire par les idéologues et par Talleyrand, par tous ceux qui veulent finalement un pouvoir fort et une nouvelle constitution. Et là-dedans, Cabanis a un très grand rôle. Il sera sur la numéro 1 de la liste des sénateurs qui le lendemain crée Bonaparte. Et il sera le rédacteur de tous les actes succédant au 18 Brumaire, prévenant la population française que peut-être on a fait quelque chose qui n'était pas tout à fait conforme à ce qu'on voulait, mais c'était nécessaire, parce que sinon nous allions à la ruine, etc. Or, tous ces idéologues, une fois que Bonaparte est en place, pas Bonaparte, c'est Bonaparte, hein, et il a beaucoup d'idées personnelles, et les idéologues lui mordent un peu les mollets. Alors ça va aller jusqu'en 1803. Il faut tout de même dire que tant que l'Empire existera, le consulat et l'Empire existera, les idéologues sont tout de même les protégés de Napoléon. Et qu'il aura beau être opposé à eux sur beaucoup de points, imaginez notre presse aujourd'hui qui critique le gouvernement, et bien la presse d'alors, même censurée, critiquait en permanence Bonaparte qui va signer le concordat. Vous imaginez, tous étaient des matérialistes athées. Hein? Alors il va signer le concordat, mais finalement ils vont s'y faire. Et puis la politique de Bonaparte va les agacer. C'est pour ça qu'en 1803, Bonaparte, il en a assez des sciences morales et politiques. Et il va les dissoudre.
Voilà.
La dissoudre, voilà. Et nous renaîtrons que je crois qu'on dit en 26 ou quelque chose.
1832,
c'est ça.
32.
Alors, voilà.
Sous Guizot, en tout cas.
Oui, Guizot, voilà.
Alors, voilà le...
C'est Carnot qui a été éliminé pour qu'on mette Bonaparte.
Voilà. Alors, vous venez de parler du matérialisme de ces idéologues. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à Cabanis dans son rapport à la philosophie de la médecine et à la philosophie tout court? Tout à l'heure, vous avez évoqué sa rigueur, en fait. Hein. Il avait un sens de l'observation très, très, très poussé. Et il avait écrit, moi ça m'a frappé par le titre simplement en vous lisant, « Le degré de certitude de la médecine en 1798 ». Je trouve que rien que le titre montre vraiment une volonté de prendre en main une œuvre, en fait.
Il affirme à ce moment-là que la médecine ne peut pas exister sans qu'on connaisse vraiment l'homme.
Oui.
Et au travers de cette connaissance de l'homme, il ne fait que suite, si vous voulez, même à Descartes, qu'il va critiquer, mais il va faire suite à Descartes, il va faire suite à Locke, il va faire suite au sensualisme de Condillac, et il va intégrer toutes ces notions philosophiques dans une conception très physique, très matérialiste de l'homme dans son destin. Et ça ne plaît pas beaucoup.
Non.
D'autant plus que quand il publiera son grand œuvre, qui sera du rapport du moral et du physique chez l'humain, chez l'homme, à ce moment-là, il affirmera carrément, dans la foulée des idées du grand siècle, enfin, des Lumières, dans les idées, dans la suite, la continuité de l'idée des Lumières, il affirmera un matérialisme qui fera mal. Car il aborde déjà des notions de neurophysiologie, en quelque sorte, on peut le dire, sans, lui il ne le sait pas, mais il annonce des choses et intuitivement il pense que tout dépend de la pensée du cerveau, que le cerveau est l'organe de la pensée, ce qui n'était pas tout à fait admis à l'époque, et que en faisant de la pensée une émanation du cerveau à peu près identique à celle de la bile par le foie, on sépare quand même assez radicalement la pensée de l'âme. Donc, il met les pieds dans le plat, faut bien dire, et ça lui coûtera cher plus tard. Mais là, c'est un profond matérialiste et même, je dirais, anticlérical.
Oui, c'est la réputation qu'il a, en fait.
Oui,
Il
force le trait. C'est-à-dire qu'il prétend que les religions n'ont pas fait leur travail, qu'il conçoit que les hommes ont besoin, peut-être, d'être assurés par quelque chose, mais en tout cas, pas par la religion qui a saisi un pouvoir temporel dont il récuse les effets. Voilà.
Alors, il est précurseur hein, en innovant en médecine, là, avec ce rapport entre physique et morale.
Ah, oui. Il pressent tout de même l'action des hormones, hein, l'action de la sexualité dans le comportement des gens, l'action même des maladies internes. Il crée une sensibilité inconsciente, viscérale, dont il prétend qu'elle agit sur la pensée. Et donc, il met en place déjà tout ce qui concerne la médecine psychosomatique et aussi, bien sûr, la psychiatrie.
Hein. Et vous dites à la fin de l'ouvrage que certaines de ces hypothèses ont été vérifiées.
Bien sûr, Antonio Damasio, à mon avis, démontre avec 2 siècles de retard à notre cher Cabanis que ces idées n'étaient pas du tout fausses et qu'il était dans la bonne voie.
Alors, on a vu qu'il était... Je ne sais plus si on laisse... présenté comme ça, mais il a enseigné.
Il a essayé d'enseigner la médecine, mais il n'a pas fait beaucoup.
Mais en fait, son enseignement de médecine se transforme en un enseignement de morale. C'est presque inévitable chez lui.
Ah oui, parce qu'il considérait que de bien concevoir la médecine, de lui définir son rôle, de lui apporter la notation philosophique, conduisait forcément à une amélioration du physique et donc du moral de l'homme.
Ah oui, c'est vraiment...
Il en espère, si vous voulez, une amélioration de l'espèce humaine.
C'est pas rien.
Ah non, il était ambitieux. Mais il faut remettre ça dans l'utopie. Il n'a pu dire ça qu'à cause de la Révolution.
C'est de sa frise l'idéal et des idéaux
révolutionnaires. Oui, absolument. Oui, mais vous savez, cette idée d'avoir un gouvernement d'intellectuels qui dirigerait toute l'évolution d'une société était tout à fait utopique. Enfin, la République d'Athènes, dans un pays qui n'était plus la Grèce, hein, c'était tout de même très, très, très curieux.
Alors, on a évoqué son œuvre majeure sur les rapports du physique et du moral de l'homme, mais évoquons aussi sa plume, peut-être, professeur Pouliquen. Il a fait des traductions. Qu'est-ce que vous pensez de ses qualités littéraires? Vous disiez tout à l'heure qu'il avait rédigé les décrets. Il faut une sacrée plume pour avoir de telles responsabilités.
Si je vous conseillais de lire les rapports du physique et du moral de l'homme, il y a ici à la bibliothèque, 2 volumes très gros, ce sont des pages et des pages. Alors, il écrit, je dirais que ce qu'il dit est très clair et très intéressant la plupart du temps. La manière de l'écrire est plutôt bonne. Il a de temps en temps, mais je pense que c'est un défaut de contrôle expérimental. De temps en temps, il s'embrouille un peu, il a des redites, et puis surtout, il a des obsessions. Il répète en permanence ce qu'il veut que l'on sache. Et là, ça revient, il est convaincu, c'est un homme de conviction.
Alors, on va revenir... Parmi ces ouvrages, est-ce qu'il y en a qu'on pourrait lire, nous, lecteurs
je crois que ce qui est le plus touchant et peut-être le plus significatif de son intelligence et de sa culture, c'est la lettre à Fauriel. Une lettre à Fauriel qui n'a été publiée que bien après sa mort.
Rappelez-nous qui était Fauriel.
Alors Fauriel est un ami qu'il a rencontré quand il était devenu l'amant de Sophie Condorcet, laquelle Sophie Condorcet était veuve de Condorcet, dont on sait hélas la fin tragique. Et elle vivait... pourquoi elle connaissait Sophie Condorcet? C'est que Cabanis avait épousé sa sœur Charlotte. Donc, il se retrouvait au château de Grouchy. Et Fauriel était un homme intelligent, dont on dit qu'il était fort laid, qu'on s'étonnait qu'il soit avec la ravissante Sophie de Grouchy, Condorcet, et il a avec Fauriel des débats philosophiques. Et à un certain moment, Fauriel préparant un travail sur le stoïcisme, Cabanis lui envoie une très belle lettre de 3 ou 4 pages où il résume sa position. Et là, son matérialisme apparaît humain, dégagé de son anticléricalisme. On a même douté, on a même supposé qu'il était revenu vers la religion. Je ne le crois pas, mais il a voulu établir entre une sorte de pensée sacrée et universelle un lien avec les hommes qui ne soit pas forcément la religion qui existe. Mais donc un élément mystique. Et c'est très bien écrit, c'est très beau.
Et ça, c'est
10 pages, c'est très, très bien. Tandis que le rapport du physique et du moral, ça, c'est un gros pavé. Et j'ai travaillé pendant longtemps dessus.
Comment traverse-t-il finalement l'expérience du pouvoir lorsqu'il a été sénateur ?
Je crois qu'il était déjà malade. Donc, il est intervenu très très souvent dans plein de sujets, sur l'école polytechnique, sur la santé, sur les prisons, dont il s'occupait un peu de tout. Je crois tout de même que son énergie s'est trouvée contrariée par une maladie dont on n'a pas fait le diagnostic à l'époque, mais qui l'a rendu déjà, alors qu'il avait 35-40 ans, un peu malade d'aspect, un peu voûté, un peu fatigué, avec ses crises de mélancolie qu'il avait. Et je pense qu'il n'allait pas très souvent au Sénat, puisque c'est Destutt Tracy qui lui rapportait les séances du Sénat. Il venait lui en parler au château de Grouchy.
C'est lui qui lui succédera à l'Académie française.
Oui, c'est lui qui lui succédera à l'Académie. C'est son élève chéri et préféré. Et qui fera un très, très bel éloge de Cabanis. Et à ce moment-là, je dirais que le Cabanis n'est plus le même. Cabanis redevient presque le poète qu'il était au départ. C'est un homme qui est face à tout de même une maladie, un état maladif. Il s'isole à la campagne. Il ne vient presque plus à Paris chez Madame Helvétius, dont il a hérité. Madame Helvétius est morte en 1800. Il en a hérité. Il va à ce moment-là admirer les jardins, les fleurs. Il va faire presque des poèmes. Il devient virgilien, vous voyez.
Vous pensez que c'est la maladie, plus que l'exercice du pouvoir qui l'amène à cette retraite entre guillemets, hein,
il s'occupe surtout des éditions, des éditions
de son œuvre.
Il devient, je pense qu'il doit penser qu'il a tout dit. Il doit penser qu'il a tout dit et il cherche à affiner ses publications, à les réunir, etc.
Parce que c'est étrange cette façon d'arriver au fait de la gloire et du pouvoir et tout d'un coup de se recentrer sur soi-même et son œuvre.
Et alors, il voyait tout de même les grands de ce monde de temps en temps. Il est à la dissolution des sciences morales et politiques. Il se retrouve non pas élu, mais nommé à l'Académie française. Et chose très drôle, il va retrouver les élus, dont Morellet. Élus vont détester les nommés. Et il ne viendra jamais. J'ai essayé de faire d'établir sa ponctualité. Et là, à mon avis, il est venu très rarement à l'Académie parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Mais il y a une chose qui n'a pas pu refuser, c'est de faire l'éloge de Vic d'Azyr. Et là, il m'a déçu.
Ah bon ?
Oui, il m'a déçu, car au fond, il ne cite jamais Vic d'Azyr. Mais Vic d'Azyr l'a précédé dans les réformes de la médecine. Vic d'Azyr a été un grand anatomiste, un grand médecin, un grand professeur, ce que ne fut jamais Cabanis. Dans un sens, Cabanis a été un assez petit médecin. Hein ? Et son grand exploit, c'est Mirabeau, mais ça ne s'est pas bien terminé en plus. Alors, ça ne pouvait pas bien se terminer de toute façon. Mais il n'a jamais pratiqué, ça n'a jamais été un enseignant. Et il a été un médecin dans la virtualité, c'est-à-dire dans la conception de la médecine, mais pas dans la pratique médicale. Et il parle pas très bien de Vic d'Azyr, qui était lui un grand orateur, qui a été même le rival de Condorcet. Ils étaient tous les deux de l'Académie des sciences et tous les deux de l'Académie française. Et Condorcet faisait ses éloges des disparus à l'Académie des sciences, et Vic d'Azyr le faisait à la Société royale de médecine. Et il était prodigieusement intéressant, il était un grand orateur, il avait une foule énorme, et ça, Cabanis ne voudrait pas qu'il ait tellement plus de brillant que lui au sein de l'Académie française où Vic d'Azyr avait laissé l'héritier de Buffon, hein, avec un éloge de Buffon absolument admirable. Et là, Cabanis me déçoit parce que là, il n'est pas beau joueur. Il prétend avoir tout fait alors qu'en réalité, il a pris le relais de ce qu'ont fait ses prédécesseurs d'une génération, dont Cabanis, dont Vic d'Azyr.
Donc il est le relais, il est l'héritier. Mais en même temps, quand même, il avait une force, une énergie qui oui. était exceptionnelle oui. et de bonnes intuitions, alors on pourrait dire.
Ah oui, non, c'est un intuitif d'ailleurs, il a fait école.
Hein, et ça, quels sont ses disciples? Parce qu'il en a eu de son vivant,
oui,
quand même.
Alors de son vivant, il a eu l'école de Destut de Tracy, qui lui était aussi un idéologue. C'est lui-même qui a défini ce qu'était l'idéologie.
Oui, c'est le mot, on lui doit le mot.
Et Destut de Tracy a fait vraiment de des travaux de Cabanis une méthode de pensée qui s'est imposée tout de même autant que l'Empire dura. Car la Restauration, finalement, n'avait pas beaucoup accepté cette pression qu'avaient les athées, les matérialistes sur la philosophie. Et là, il y a une revanche qui est assez nette. Et on va noyer. Destut de Tracy va perdurer. Encore que c'était un malade un petit peu hypochondriaque. C'était un homme hypochondriaque qui avait peur d'être aveugle, qui a écrit un peu, mais qui n'a pas défendu, si vous voulez, l'idéologie comme Cabanis aurait pu le souhaiter. Et il y a eu, à la Restauration, un étouffement du mouvement philosophique que Cabanis avait mis en place.
Et une éclipse, tout ça c'est raconté dans le livre.
Oui.
J'invite nos auditeurs à vous lire, évidemment. Pour terminer, Monsieur Pouliquen, je voulais vous demander si accepteriez-vous de lire les deux premières pages ou la première page, comme vous voulez. Parce que ce sont vraiment deux pages qui, une fois qu'on les a lues, on a envie de continuer. Et si c'est trop long, je peux le faire, c'est comme vous voulez.
Alors, c'est le premier chapitre, en
oui,
fait.
Oui, exactement.
Qui s'appelle « Un si calme petit cimetière ». Il vous est peut-être arrivé de visiter le cimetière d'Auteuil. Cet insolite petit carré de tombe, cerné de grands immeubles que nous découvrons après avoir cherché son imposant portail d'entrée, dans la calme et courte rue Claude Lorrain. Il a accueilli les morts du village d'Auteuil lorsqu'en 1800, l'ancien cimetière du village qui cernait l'église Notre-Dame fut abandonné. En 1860, l'inclusion d'Auteuil dans ce qui devenait le Grand Paris l'enferma de saisissante façon dans la trame urbaine d'un 16e arrondissement en pleine expansion. Ouvert pendant quelques années de façon gratuite à qui s'y présentait, il devint rapidement le cimetière des familles aisées qui jugèrent prudent d'y acquérir des concessions à perpétuité. Si vous l'avez visité, votre curiosité s'est peut-être attardée à comparer les monuments bigarrés que les styles de différentes époques et les familles ont dédiés à leurs morts. Mais vous avez sûrement sollicité votre mémoire à la lecture des noms célèbres qui étaient gravés, Charles Gounod, Hubert Robert, Abel Gance, Pierre Benoît, Jean-Baptiste Carpeau et bien d'autres encore. Vous vous êtes sûrement arrêté chemin Benoît, celui qui borde précisément la division 10, où vous auriez pu, en un raccourci topographique, rouvrir une grande page d'histoire littéraire et philosophique en contemplant deux tombes. L'une d'elles, très sobre, est composée d'une grande plaque de granit que le temps a teintée d'un gris terne et maculée de lichen roussâtre. Il faut s'appliquer pour y lire sur des lettres en partie effacées le nom de celle qui est inhumée. Anne-Catherine de Lignyville, en d'autres termes, la célèbre Madame Helvétius. À quelques pas de là, un enclos cerné par une grille de fer forgé attire l'œil parce qu'il impose à notre attention l'élévation à la tête d'une plaque tombale fort dégradée d'une pierre de granit ouvragée d'un caducé hippocratique mais dépourvue de croix, qu'une exubérante et sauvage végétation semble vouloir masquer à notre regard. Au sommet de celle-ci, on peut déchiffrer avec difficulté de grandes lettres en partie gommées par le temps et dont l'assemblage restitue le nom de Cabanis. Ainsi, par-delà leur mort, se retrouvent si proches en éternité deux personnages qu'un hasard réunit un jour et qu'un indéfectible amour, si l'on veut bien garder à ce terme celui qui caractérise la relation d'une mère et d'un fils, lia jusqu'à la mort. Cette proximité en souligne d'ailleurs bien la force et la nature, car elle fut ardemment souhaitée par l'un et l'autre des défunts.
Merci beaucoup, professeur Pouliquen, cette lecture, qui effectivement ensuite, on a envie de poursuivre cette lecture. Et merci d'être venu présenter Cabanis, ce travailleur acharné, cet homme de grande curiosité, de rigueur quand même, qui a été un petit peu refroidi de ses enthousiasmes initiaux de la Révolution, mais qui restait quand même un homme de fraternité, puisqu'il a aidé de façon, quand même au péril de sa vie, quand même la famille de Condorcet, à laquelle il était lié, et qui à vos yeux reste un grand savant, mais pas forcément un grand médecin, parce qu'il n'a pas été peut-être suffisamment praticien, à vos yeux.
On lui a reproché de ne pas être tout à fait médecin, pas tout à fait philosophe.
Alors, médecin-philosophe, on ne pourrait même pas le qualifier
ainsi. Ce n'est pas tout à fait juste.
Oui.
Il a été, dans la virtualité, un grand médecin, parce qu'il a une érudition extraordinaire, et dans la lettre à Fauriel, il la restitue. Il a été pas un médecin dans la pratique de la médecine, mais dans la conception de la médecine, il fut un grand médecin.
Et
mais
innovateur.
Il fut pas un médecin praticien. Dans ce secteur-là, il n'a pas fait beaucoup de choses. La philosophie, on lui a reproché de ne pas être non plus un grand philosophe. Car s'il avait lu les philosophes, il n'était pas de statut un philosophe. Et il a lui-même créé, en quelque sorte, sa réflexion philosophique. Mais il l'a toujours greffé sur des notions antérieures qu'il avait étudiées, non pas en philosophe, mais en médecin.
C'est le parfait idéologue du XVIIIe et XIXe siècle, alors.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est surtout cette période où la science commençait à trouver ses preuves et où chaque intuition attendait une réponse. Et d'ailleurs, les réponses vont venir bientôt. Elles vont venir dans la médecine, elles vont venir dans l'embryologie, elles vont venir dans toutes les disciplines médicales. Et ça va se prolonger par la naissance aussi d'une discipline où il est à l'origine d'une façon très importante, la psychiatrie. Et en plus, il va se prolonger même chez les philosophes, puisque Schopenhauer a été très épris de Cabanis et Auguste Comte aussi. Et un homme en a été particulièrement friand, c'était notre cher Stendhal, qui en parle tout le temps. Et j'ai même, sur ce sujet, fait quelques conférences, parce que c'est tout de même très intéressant, le rapport, surtout la découverte que Stendhal a eue d'un homme qui ne pensait pas comme les autres, et qui mettait le corps au service des sentiments, du moins à l'origine des sentiments. Et pour Stendhal, c'était une découverte. Et c'est vrai que ça a changé un petit peu la conception qu'il avait de l'amour et de ses héros.
On va rester sur ces deux mots. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Pouliquen.